ce premier volet Montréal-Québec, villes intelligentes, on parle avec Harout Chitiliana. Il est le vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers de la ville intelligente et des TI à la ville de Montréal. Bon podcast.
Oui, M. Miron.
Bonjour Harout, ça va bien?
Oui, vous?
Ça va très bien. Dans vos mots, c'est quoi une ville intelligente?
Une ville intelligente, avant tout, ce n'est pas une ville technologique parce qu'on a des fois tendance à penser que la technologie est une finalité, mais elle est plutôt un moyen de créer des projets qui ont un plus-value pour des domaines dans lesquels on veut déployer cette intelligence autant collective que technologique. Donc nous, on a décidé de cibler la mobilité, on a décidé de cibler la transparence, on a décidé de cibler des services numériques. On a décidé de cibler également la question de l'aménagement urbain et également on a décidé de cibler le développement économique.
On sait que c'est pas juste un trend, c'est le monde entier est à la sauce ville intelligente. Chacun y va avec sa recette en fonction de sa réalité qui est propre. Montréal, on se situe à quel niveau?
Avant tout, quand on est arrivé, en 2013, il n'y avait pas de positionnement vis-à-vis de ces questions-là. Donc, il a fallu avant tout définir une vision très claire, de haut niveau, choisir le moyen et les moyens qu'on allait utiliser pour réaliser cette vision. Et surtout, une fois ceci étant dit, de l'exécuter. Donc, présentement, je vous dirais, on a passé les étapes de la définition de la vision, on a choisi de déployer plutôt des efforts en régie pour faire une grande partie du travail, de ne pas sous-traiter cette responsabilité-là à l'industrie. Et également, le troisième volet, dans l'exécution, on a un plan de match très concret de 70 projets sur 3 ans qui sont en exécution et qui sont de façon très transparente, publique à tous et à toutes, donc qui peuvent suivre l'évolution de ces projets.
Dans la stratégie montréalaise que vous avez publiée l'année dernière, 2014-2017, on a comme objectif de devenir un chef de file mondial. Il y avait beaucoup de chantiers à déchiffrer et à activer. On est-tu satisfait du déroulement de ce plan-là?
Je suis satisfait, oui, parce qu'on a couvert pas mal de chemin en 2 ans. En même temps, je suis toujours également d'attaque parce qu'il faut livrer, il faut exécuter sur nos promesses. Et surtout, il faut également être à l'affût des évolutions futures parce que c'est des mouvances qui changent très rapidement. Et quand on parle beaucoup dans l'industrie de faire le virage, on utilise souvent ce terme-là, de faire le virage numérique.
C'est vrai.
Pour moi, c'est pas seulement un virage qui est figé dans le temps. Il faut développer les habiletés pour anticiper les virages futurs et de s'adapter en conséquence. Avant de miser sur des gadgets et des technologies, on mise avant tout sur le renforcement de notre expertise. Donc, on s'est entouré et on continue à s'entourer de personnes qui ont leur expertise dans des domaines qui, selon nous, vont avoir, je dirais, une importance primordiale et capitale au développement des villes à l'avenir, notamment toute la question qui touche les données, donc la collecte, l'analyse et le déploiement des architectures qui touchent les données,
oui,
de Big Data.
Oui.
Toutes les questions qui touchent également les réseaux de communication évolués et multiservices, parce que quand on parle de l'Internet des objets, c'est un marché qui est en émergence, mais dans les 5-10 prochaines années, presque tout va être relié à un réseau.
Quand vous dites que la ville de Montréal s'assure d'être bien équipée, je regardais sur le site de la ville où vous étiez à la recherche de 40 experts en architecture et gestion de projet, puis ça autant en bureautique, en télécom qu'en sécurité. C'est l'ensemble du système qui doit jusqu'à un certain point être revu.
Exactement. On a commencé avec les postes de direction, donc une réorganisation complète de l'équipe.
Oui.
Là, on est rendu au deuxième niveau, donc les architectes, les gestionnaires de projets.
Mm-hmm.
Et il y aura aussi une troisième vague importante d'embauche, et je le dis en primeur. Ça va être tous les développeurs et plus les ingénieurs qui vont travailler sur le terrain.
Ça, est-ce que ça se fait en parallèle avec les entreprises qui offrent dans ce domaine-là localement ou la Ville de Montréal se développe par elle-même?
Autant qu'on se renforce au niveau de notre expertise,
oui.
Autant également vis-à-vis l'industrie, on redéfinit les paramètres avec lesquels on veut interagir avec eux. On parle de télécommunications, par exemple. Dans le passé, la Ville avait tendance à traiter avec l'industrie de façon extrêmement simplifiée. Je m'explique. Quand ça touche, par exemple, les besoins en data communication données, transmission données, on voulait avoir de l'Internet sur les prises de nos employés, les prises de réseau,
oui.
Mais on ne se souciait pas de tout le back-end de tout ça.
Mm-hmm.
Et là, on a plus conscience à redéfinir ces modèles anciens. Donc, on veut autant traiter avec des entreprises qui déploient de la fibre parce qu'on veut être propriétaire de nos réseaux fibrés. On veut autant également acheter nous-mêmes de l'équipement pour le déployer. On veut avoir des réseaux sans fil extérieur, haut débit, autant pour les citoyens, mais également pour des usages internes. Donc, on redéfinit la façon également qu'on traite avec l'industrie.
Et ce qui est intéressant aussi de tout ça, c'est que ça ne se fait pas tout seul. C'est, oui, la Ville, ce que je comprends, c'est qu'on met tout en place pour que ces choses-là puissent arriver, mais la collaboration des associations, des citoyens, des entreprises locales est fortement mise à contribution sans ces différentes instances-là. On aurait beau être le mieux équipé qu'il faut, il ne se passera pas grand-chose pareil. Avez-vous un ou deux exemples concrets de en quoi la Ville de Montréal pourrait bénéficier d'adopter cette stratégie de rendre la ville plus intelligente?
Absolument. Donc, avant tout, il faut regarder comment on implique le citoyen dans la conception et dans la définition des services de l'avenir. Je prends un exemple récent. On a organisé un défi innovation et on en fait maintenant assez régulièrement.
Oui.
Donc, le défi innovation avait pour cible l'amélioration de la pratique du vélo sur le territoire de la Ville de Montréal.
Oui.
Donc, partant de cette idée-là, c'est un objectif qui est quand même pas technologique, mais on a regardé comment on peut utiliser les technologies pour parfaire nos analyses et pour développer des outils pour améliorer cet objectif-là. Donc, c'est là où les données viennent en jeu. On a libéré les données d'achalandage du réseau Bixi, les données d'achalandage qu'on a collectées avec nous, les moyens de la Direction des transports de la Ville de Montréal. On a libéré également tous les points d'ancrage et les stationnements de vélos qu'on a à travers le territoire. Et surtout, on a mis à la disposition des participants de ce défi innovation qui a duré 3 jours, tous les spécialistes dans les différentes directions, autant à la Ville que chez Bixi, que chez Vélo-Québec. Et le résultat de ça, c'est que après 3 jours, ils ont créé une vingtaine d'idées de projets. Sur ces idées de projets-là, à peu près 5-6 qui sont des outils numériques qui vont aider la direction de transport à mieux planifier le déploiement des futures pistes cyclables.
Okay.
4-5 autres projets qui étaient de nature plus commerciale et qui peut-être aboutiront vers des PME et des start-up. Donc, pour moi, c'est ça en résumé, un exemple concret de comment on déploie autant l'intelligence collective, qu'on utilise les technologies numériques, qu'on utilise les données et qu'on crée avec tout ça un résultat intéressant pour améliorer la qualité d'un service aux citoyens.
Dans le plan directeur, comme je mentionnais plus tôt, on disait qu'en 2017, Montréal vise à devenir un chef de file mondial. Il nous reste une année pour se rendre là. Ultimement, comment on va faire pour savoir? C'est beau avoir nos propres objectifs, mais la comparaison avec d'autres villes dans le monde, ça se fait comment?
C'est une très bonne question. Donc, on a établi comme forum de comparaison une institution qui s'appelle le Intelligent Community Forum.
Oui.
Et dès le début du mandat, on a rappelé notre volonté de participer activement aux travaux de cet institution-là. Et cette année, donc, on a percé de nouveau le top 21. Et très prochainement, on va savoir si on arrive dans le top 7.
Y a-t-il comme une espèce de compétition amicale à ce niveau-là, ou c'est vraiment une compétition féroce, puis les villes ne se parlent pas entre elles, au même titre que au hockey, les villes ne se parlent pas entre elles?
Je dirais qu'il y a une belle solidarité au niveau même mondial entre les villes, parce que les villes réalisent qu'ils vont devenir, et ils le sont déjà, le niveau de gouvernement qui va être le plus, je dirais, sollicité pour faire face aux enjeux contemporains et futurs. On peut penser aux changements climatiques, on peut penser aux enjeux de sécurité, aux enjeux d'intégration des nouveaux arrivants et également, particulièrement, des enjeux de diminution de ressources financières. Et il faudra faire plus avec moins. Donc, c'est pour ça que les villes collaborent ensemble, mais en même temps, rien ne nous empêche également d'avoir une saine compétition pour voir qui a les meilleures pratiques. Et à ce rythme-là, si on garde la même analogie qu'au hockey, j'espère ramener la Coupe des villes intelligentes à Montréal avant le Canadien. Et à ce rythme-là, je pense qu'on est bien parti parce que la tournure que la saison du Canadien a pris, je pense pas qu'on est...
Ouais, on va se reprendre du côté de la technologie. Puis parler hockey par rapport à Québec, on est-tu en bonne position aussi au niveau de villes intelligentes?
On va regarder les villes. La ville de Québec a eu un positionnement intéressant à cause d'un investissement privé important qui a eu lieu il y a plusieurs années, a investi massivement à installer de la fibre partout, okay, autant aux résidents que dans les entreprises. Et il y a également une consolidation importante de quelques industries d'importance dans la ville de Québec, notamment l'industrie de l'assurance et quelques industries financières.
Oui.
Donc, il y a quand même des atouts intéressants. Et la ville en soi aussi est bien gérée et ils ont réalisé quelques projets technologiques intéressants. À part la ville de Québec et Montréal, je dirais les autres villes qui participent activement à cette mouvance-là, il y a Magog, qui est une ville de moins de taille, mais la mairesse exprime toujours sa volonté de être à l'affût des technologies. Okay. Et récemment, on entend parler de la volonté de la ville de Laval et également Gatineau qui démontre de l'intérêt à intégrer la technologie dans leur pratique quotidienne.
Ben, coudonc, à défaut de voir la Coupe Stanley, ça va faire des bons matchs au niveau des villes intelligentes. Je vous remercie beaucoup, Arut, puis bonne continuation. On va suivre ça de près.
Merci beaucoup. Très apprécié.
C'est tout pour cet épisode. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet dans le Grenier Magazine, téléchargez l'application iPad sur le App Store. Et si ça vous dit, poursuivons la conversation sur Twitter en utilisant le hashtag Grenier Mag et mon identifiant Twitter Pizza for All. À la prochaine pointe!